Donc, alors, j'ai donc une communication qui s'intitule... ça, ce sera là, voilà. Donc, le sentiment de l'histoire, merci. Dans le punk, la post-punk, le new wave, la new wave de l'Europe de l'Ouest pré-89. Alors, ça aurait pu être une intervention sur les échanges entre nations européennes, entre acteurs de ces nations, musiciens, producteurs, techniciens, qui méritent clairement une étude, une ethnographie, une cartographie éventuellement, mais ce n'est pas mon propos. Je m'intéresse davantage à la thématique historique, la présence de l'histoire chez les acteurs de ces courants. Donc dans le No Future, s'entendait déjà une interrogation hein, sur l'histoire et sur le chemin qu'on emprunte et qui ressemble de plus en plus à un highway to hell, préoccupation écologique, peur de l'affrontement ultime entre grandes puissances durant la guerre froide, la perspective du déclin économique, démographique, qui pourrit les représentations et les débats en Europe depuis maintenant un demi-siècle. Et je formulerai en fait une hypothèse démographique. Les punks sont nés à une époque, à un moment particulier de l'histoire occidentale, dont ils seraient porteurs, un moment où l'héroïsme ne peut plus être de mise et où les silences et les faux-semblants laissent place à une lumière plus crue. Et plus qu'aucun autre mouvement musical, je pense que le punk a porté la critique sociale et rappelé les moments douloureux de l'histoire passée, l'histoire en train de se faire, en la portant jusque sous le nez des adultes, rarement autant détestés, autant chahutés par leur progéniture. Le punk est un cri de souffrance et d'impuissance malgré le do-it-yourself, malgré l'autogestion. Les idéologies qui avaient eu cours jusque-là, donc qui avaient permis à de jeunes soviétiques, garçons ou filles, d'offrir leur vie pour la défense de la patrie assiégée, à de jeunes français, anglais, polonais, tchèques, italiens, espagnols et autres, de donner leur sang pour contribuer à la lutte contre le monstrueux phénomène politique qu'ont été le national-socialisme et les divers fascismes d'Est en Ouest. Ces certitudes, ces patriotismes, c'était délité. Et donc le punk, un peu comme Dada après la Première Guerre mondiale, le punk, ce serait le Dada de l'après-deuxième guerre mondiale. Grell Marcus, dans Lipstick Traces, écrit « La théorie dada de base, qui veut que l'art puisse être fait à partir de n'importe quoi, et qui, cette théorie, égalait la théorie de base punk, selon laquelle tout le monde peut faire de l'art. La logique dadaïste, c'est-à-dire découpage, collage, se trouvait là, à la fois dans la musique punk et dans la mode vestimentaire. Une pochette punk londonienne de 77 pouvait ressembler à un collage dada berlinois de 1918. » Alors un peu comme les merveilleux et les incroyables après la terreur, à ceci près que ceux-ci sont aristocrates, un peu comme les artistes dada, comme les azous, le punk s'inscrit dans une sorte de réaction vitale, énergique, salvatrice, en même temps que dans une crise spirituelle, post-romantique, inquiète de son avenir, dans une période qui promet rien moins que l'apocalypse de la bombe atomique. Donc la dimension religieuse, voire millénariste, n'est pas toujours consciente, mais elle est sous-jacente bien souvent. Et certains punks sont même ouvertement catholiques, comme John Lydon, qui se proclame être l'antéchrist, et que Grell Marcus compare au leader d'un mouvement hérétique du Moyen-Âge, toujours dans Lipstick Traces. Vraiment un rapprochement assez intéressant. On a l'italo-américain Johnny Thunders, qui se déclare ne pas être punk, mais qui est tout de même dans cette mouvance, ne serait-ce que par son premier groupe, les New York Dolls, et puis par les suivants, s'affiche lui aussi crucifié, hein, comme Lydon, crucifié, mais plus au premier degré, avec moins de sarcasme. Pour lui, c'est plus l'incarnation d'un masochisme catholique plus individuel. Donc on a des groupes comme Cabaret Voltaire, un groupe de Cold Wave de Sheffield, qui dès 1973 va faire partie de ces groupes qui, comme Throbbing Gristle, essayent de réenchanter l'Angleterre post-industrielle par précisément de la musique industrielle. Bauhaus, un autre genre de Cold Wave vampirique, dès 1979 va s'inspirer, quant à eux, des films muets. Donc ce sont des étudiants en art, donc il y a un peu deux tendances, hein, on l'a dit et redit, une tendance plus working class, une tendance étudiant des écoles d'art, qui ne sont pas forcément issus de familles aisées, hein, mais qui ont eu l'opportunité en Angleterre de suivre, s'ouvrir à l'art à travers ces écoles. Donc, c'est une création après-guerre de l'État anglais, qui a été très profitable et qui a grandement contribué au punk, dans sa version donc arty. Donc, ce sont des étudiants en art, et quand on les écoute, on entendrait presque battre les ailes des chauves-souris du film de Murnau, là, qui accompagne le navire du comte Dracula, qui a un autre nom dans le film. Mais ces chauves-souris de Nosferatu, donc d'un film qui date de 22, et qui est une référence clairement pour ce mouvement. Donc l'expressionnisme allemand est largement convoqué, y compris dans la scénographie du groupe. Et si le roman Dracula est bien irlandais, puisqu'il est écrit par Bram Stoker, le personnage, lui, est pan-européen. Il vient du vampire de l'Est, qui se diffuse au 19e grâce à la littérature, donc un personnage ethnographique, mais qui se diffuse par l'Angleterre et l'Allemagne dans un premier temps, à travers donc un certain nombre d'écrivains, et qui va se charger de nouvelles représentations qui vont culminer avec le rock gothique, une branche de la New Wave. Et je rappelle quand même rapidement que le terme de New Wave, en fait, n'est pas postérieur à celui de punk, il le précède. Le mot punk a remplacé l'expression de New Wave. Alors, il s'agit d'étiquettes, mais la New Wave est le terme qui a, pendant un temps, décrit ces nouveaux mouvements, avant que le mot punk ne l'emporte. Donc, Bauhaus, Cabaret Voltaire sont deux appellations qui, très clairement, se réfèrent à la République de Weimar. Donc, on a des influences d'un côté du romantisme noir, du roman gothique, donc Marie Shelley, Polidori, etc., et d'autres, mais aussi du cinéma expressionniste. Alors, je sors un peu de l'ère européenne, mais les New Yorkais de Swans, les Australiens Birthday Party, les Anglais, donc pour le coup Sisters of Mercy, sont porteurs. Alors, j'ai oublié la. Bauhaus, voilà, typiquement aussi dans leur graphisme. Sisters of Mercy, dont on voit là deux membres, un punk maniériste et référencé. Donc porteurs de cette posture intellectualiste et qui truffent leurs textes de références littéraires, voire même bibliques pour certains. C'est une autre manière de se positionner face à la question de la modernité et du progrès, face à un monde désenchanté et au nouveau paradigme postmoderne qui apparaît à la fin de ces années 70, puisque je rappelle que la condition postmoderne de Jean-François Lyotard, c'est 79. Quelques désenchantés vont se resserrer autour d'une musique en recherche d'émotions et d'une espèce de sensibilité victorienne surannée, qu'on va retrouver également dans les vêtements. Donc des auteurs comme Baudelaire, Poe, des figures comme Maldoror ou Prométhée trouvent leur nouveau public auprès de ces adolescents ou de ces jeunes adultes. Donc si Dada a été une réaction de la jeunesse artiste à la tuerie des peuples au moment de la Première Guerre, le punk, lui, est né d'un sentiment de la fin de l'histoire occidentale, de l'échec de la tentative de réhabilitation morale après l'Holocauste, après la colonisation, après Hiroshima, après Nagasaki. Ces préoccupations, donc ces thématiques, elles sont propres à ce momentum historique particulier. Donc, pour rappel, donc toujours Thatcher en Angleterre, Pompidou, Giscard qui succède à De Gaulle en France, et puis le choc pétrolier de 73, on l'a dit, redit la restructuration des grandes industries, la fin des industries charbonnières et métallurgiques, donc qui privent énormément de gens de perspectives d'emploi, et la financiarisation de l'économie. Donc tout concourt à faire en fait perdre cette dynamique de l'espoir qui fait qu'on est en mesure de se projeter dans un avenir, qu'il soit individuel ou collectif. Et du côté new-yorkais, on parle de blank generation, donc d'une génération à vide, à blanc. Et les thématiques provocatrices et apparemment cyniques du punk, donc ils sont pro-plastique, pro-nucléaire, pro-robot, pro-violence, pro-destruction, pro-fin du monde, veulent en quelque sorte tendre un miroir grossissant aux adultes et des sortes de lunettes à rayons X aux adultes. Et donc ils font l'éloge du plastique dans leur tenue, on a Divo, Blondie, X-Respect justement, donc, dont Polystyrène, la chanteuse, donc, dont le nom indique donc une matière dérivée du pétrole, est habillée de plastique, et elle chante en 77 The Day the World Turned Day-Glow. Donc sa traduction directement, j'ai grimpé sur des monticules et des monticules de mousse de polystyrène, je suis tombée dans une piscine remplie de neige féerique, et j'ai regardé le monde devenir fluorescent. J'ai arraché les rideaux de nylon aussi loin qu'ils pouvaient aller et regardé à travers les vitres en plexiglas sur la route en acrylique. Donc pour aller très vite, pour simplifier, on a une certaine mélancolie post-wave, new wave, le sarcasme dans le punk et le post-punk, l'énergie contestataire plutôt dans le street punk et la hoï, Donc, au moment où la pop continue de s'évertuer à mettre un peu de gaieté dans les foyers, ben, le punk et ses avatars n'ont de cesse de montrer donc, plutôt la face sombre de l'histoire collective occidentale. Donc je vais aborder quelques exemples qui sont très connus, et il y en a plein d'autres, mais je vais partir de mon écoute personnelle, puisque mes premiers disques, je les ai achetés auprès des deux ennemis historiques de la France, à savoir l'Allemagne et l'Angleterre. Donc en Angleterre, dans la banlieue de Manchester, j'ai découvert en même temps le punk et la Oi, qui faisaient tout à fait bon ménage, avec des groupes comme les Écossais Oi Polloi, Betrayed, The Business, In Far Riot, The Foreskins, les Angelic Upstarts, dont on reparlera, Jam 69, évidemment, emblématique, et puis des groupes plus raffinés, de post-punk, comme Wire, Alternative TV, puis Psychic TV, et les groupes typiquement du Nord, The Fall, Magazine, et puis évidemment Joy Division. Également des toutes petites formations locales qu'on connaît moins ici, comme les Mekons, qui sont de Leeds, ou les filles de Property Of. Donc Magazine, typiquement, qui se situe entre punk et new wave, va renouer dans un morceau comme The Great Beautician in the Sky, avec la tendance cabaret, qui exploite par ailleurs les Australiens comme les Bad Seeds de Nick Cave ou Birthday Party, avec leurs références ou carrément des emprunts directs à Kurt Weill et Mahogany, donc Mahogany ou l'Opéra de Katsu. Donc toujours les années 20, la République de Weimar, une période de bouillonnement culturel et d'innovation, de critique sociale aussi. Et donc je rappelle que le cabaret, c'est un lieu de gauche, un lieu créatif, qui réunit beaucoup de juifs et d'étrangers, très loin de la caricature qui nous en est arrivée et qu'en ont fait les SS et qu'on a malheureusement retenu. Donc je pense ici à des fantasmes, alors qu'ils sont d'une autre nature, mais aux fantasmes d'Alain Kahn, qui, depuis un certain prisme homosexuel que partageait d'ailleurs Jean Genet, était fan du costume SS, comme Suzy, mais pour des raisons érotiques d'interdit. Quoi. Donc je parlerai un petit peu de cette fameuse croix gammée. Le rapport à l'histoire, en fait, il peut être aussi produit, non pas directement dans le discours, dans le nom des groupes ou les paroles, le texte et des morceaux, mais aussi par des discours non-verbaux, donc par le vêtement qui est essentiel dans le punk et qui dit beaucoup, qui affiche beaucoup. Le corps est un petit peu un lieu d'affichage. Moi, j'avais dans le dos une veste en plastique sur laquelle je plaçais des œuvres différentes sous une poche plastique qui me permettait de faire un peu la galerie ambulante. Et le corps punk a toujours été un lieu d'exposition. Donc on a cette histoire de croix gammée, le t-shirt à la croix gammée de Sid Vicious, le brassard SS de Suzy à l'époque Brumley Contingent, donc juste avant les Banshees, où elle joue avec Sid Vicious. Et elle, en fait, elle porte ce brassard en 76 à son premier concert où elle fait la première partie des Sex Pistols. Et c'est une espèce d'accessoire de plus dans son vestiaire décadent et très cabaret. Elle a nécessairement vu Cabaret de Bob Fosse qui sort en 72, qui a influencé pas mal de gens. Et ça rentre dans ses références fétichistes. SM également, mais là, on est plutôt dans le fétiche. Elle déclare plus tardivement, donc dans les années 2005, elle déclare... En 2005 même, elle déclare « La culture de l'époque, c'était Monty Python, Springtime for Hitler. C'était utilisé comme un truc glamour. Et tu sais quoi, je dois être honnête, mais j'aime bien l'uniforme nazi. Je ne devrais pas le dire, mais je pense que c'est un très bel uniforme. » Donc elle critique le politiquement correct, elle trouve que c'est nazi de critiquer c'est fasciste de critiquer ce genre de pratique. Donc Vivian Westwood, elle carrément avait fait son t-shirt alors qui mêlait croix gammée et cette crucifixion inversée. Et dans toute la période, en fait, on a des références directes ou indirectes, assumées ou tues, elles sont conscientes ou inconscientes à plein de niveaux. Par exemple, le nom du groupe Joy Division, donc qui fait référence à Division de la Joie SS. Et il y a évidemment dans ce nom quelque chose qui n'est pas joyeux, quoi, qui est triste et qui fait que, bien évidemment, ça le différencie nettement de noms de groupes néo-nazis. Toujours à la même période, on a les Clash, qui devaient quand même au départ s'appeler les London SS, mais SS pour Sécurité sociale, Social Security, donc qui arborait un t-shirt Brigate Rosse avec un D, orné d'une mitraillette marquée du sigle de la RAF, donc qui mélange un peu toutes les références de l'époque. Donc il le porte à différents moments, Joe Strummer, il le porte notamment à son concert à Victoria Park, donc le fameux concert organisé pour Rock Against Racism en 78, qui est organisée précisément pour réagir à la montée du National Front en Angleterre et aussi à des propos plus que tendancieux d'Eric Clapton, qui pourtant joue avec des musiciens noirs, hein, il l'a toujours fait, et aussi de David Bowie, qui à un moment, bon, ça n'excuse pas, mais un moment un peu de délire dans sa période cocaïnomane aiguë, avait déclaré Adolf Hitler première star du rock. Alors qu'il a passé quand même 3 ans à Berlin avec Iggy Pop, merci, j'entendais Stooges, 3 ans à Berlin avec Iggy Pop, dans un quartier où étaient autrefois des homosexuels, donc qui sont directement des victimes de la persécution nazie, et qui étaient attirés par l'arsenic de Max Reinhardt et de Bertolt Brecht. Donc, comme nazi, on fait mieux quand même. Mais bon, voilà, c'est ces glissements un petit peu de provocation de l'époque. Mais il a quand même une fascination évidente pour le costume, hein, pour l'esthétique de cette époque. On le voit dans sa coupe. Et son admirateur en France, même son quelqu'un qui voudrait lui ressembler, Alain Caen, porte volontiers un genre de casquette SS en concert et surfe sur ses propres angoisses dans un morceau qui est très clair. Devine qui vient dîner ce soir. Alors, j'aurais pu vous le faire écouter, mais... J'ai pas le temps, mais vous pourrez l'écouter si vous le connaissez pas. Il est assez drôle. Ça dit, il nous réserve une surprise qui fera bien rire. Devine donc qui j'ai dîné ce soir. Il nous réserve une surprise qui fera bien rire l'histoire. Je lui ai préparé un dîner des plus raffinés qui soient, des viandes ultra grillées, des petits fours baignés de crème à boire. Et plus loin dans le morceau, tonton Adolphe, tu vas encore faire des conneries toi ce soir. Appuyez sur le bouton qui va faire exploser la terre. Donc là, il est tout en dérision très clairement. Pourtant, le morceau a été censuré, il n'a pas pu sortir. Mais il faut quand même comprendre que dans toute cette affaire, il s'agit d'un commentaire et pas d'une affiliation. Il y a une grande différence entre arborer ses t-shirts et ses brassards dans une tenue fétiche et avoir un t-shirt d'un groupe néo-nazi avec le chiffré en 18 Adolf Hitler. Où là, il s'agit clairement d'une idéologie. D'un amour des idées-là dans toutes ces affaires, c'est une provocation a priori sans idéologie, quoi. On a Didier Ramon également, qui est de mère allemande, hein, dont l'oncle donc maternel est rentré, est mort en fait de retour du front russe, qui a grandi en Allemagne, en partie, donc son père était militaire américain, donc dans différentes garnisons américaines. Il a grandi près de la ligne Siegfried, donc face à la Maginot, côté frontière française, et aussi en Bavière, près du nid d'aigle d'Hitler. Donc tout ça le fascine. À l'époque, il y a toute une... il dit qu'il tombe sur un certain nombre, notamment de morphine, hein, c'est ce qui commence son addiction, qui était utilisée par les SS, et sur tout un nombre d'objets qui vont le fasciner, des poignards, des sigles, des symboles, etc. Mais il n'est pas le seul. Hein. Bon, lui, il est évidemment dans un foyer violent. On peut comprendre que ce soit troublant pour un enfant d'être dans cette Allemagne très particulière de l'après-guerre. Mais il y en a d'autres. Il y a Arturo Vega, par exemple, à New York, dans le loft qu'occupent les Ramones, qui peint des croix gammées, le fameux en fluo, quoi, le déglo de polystyrène, et qu'on voyait là... en haut à gauche, bon là c'est pas très fluo, mais voilà, il en avait mis un peu partout. On voit quand même que c'est conceptuel, quoi. C'est pas une citation directe. Donc les Dead Boys aussi ont des croix d'honneur de mère allemande. Steve Bators aussi aurait dessiné une croix gammée dans les poils pubiens de sa copine photographe Hélène Polk. Donc il y a une certaine obsession pour le nazisme qui est doublée d'un désir de profaner et de dépasser les limites, qui est typiquement adolescent, évidemment, mais c'est aussi une recherche de vérité, parce qu'on a menti à cette génération, et au mieux, on ne lui a rien dit. Et puis, il y a encore une autre lecture, c'est la lecture postmoderne, hein, toujours le pastiche, la citation, la parodie. Et donc, ils sont clairement, je pense, de ce côté-là. C'est moins clair avec un morceau comme Bells and Was a Gas, un morceau écrit par Sid Vicious avant, les Pistols, ça sont l'époque avec Suzy. C'est un morceau donc, qui parle du camp de Bergen-Belsen, ça gaze à Belsen, donc un jeu de mots qui peut rappeler un peu du rafour crématoire de Jean-Marie Le Pen. Ça vole pas tellement plus haut. Et c'est toujours Grelle Marcus qui rappelle qu'en Angleterre, et aussi aux États-Unis à travers la télévision et les médias, les journaux à l'époque, l'ubiquité du symbole avait fini par forger en 78, une identification dans les médias entre le punk et la renaissance des nazis britanniques. Et en effet, pour rappel, la période est en Angleterre à la montée du National Front, d'une part, et à la réhabilitation d'Oswald Mosley, qui est le chef de l'Union britannique des fascistes. Donc, c'est un drôle de timing de ressortir cette panoplie pour une énième provocation générationnelle que d'autres vont quand même aborder plus finement. Je pense, par exemple, à Fassbinder en Allemagne, dans le cinéma, qui va donner sa vie entière à l'exploration de cette interrogation. Le fascisme est-il bien mort en 1945 ? Parce qu'il faut s'arrêter quand même un moment sur l'aspect démographique, hein, comme je le proposais en introduction, l'aspect démographique de ce mouvement punk initial. Ceux qui ont entre 14 et 20 ans, en 77, ils sont nés entre 57 et 63. En pleine guerre froide, donc, la tête farcie de récits de guerre, de défaites ou de victoires pas très très claires, et qui ressentent vaguement la faute morale du colonialisme, de l'abandon des Juifs à leur sort durant la guerre, des bombes sur le Japon. Et donc c'est comme une sorte de hantise et de mauvaise conscience que viendrait, puisque ça reste une hypothèse que je propose, que viendrait incarner le punk. Et le morceau de Belson Was a Gas a été repris par des groupes qui sont clairement classés à gauche, comme Exploited et Chaos UK, mais aussi par No Remorse, dont le nom indique qu'ils ne sont pas dans la repentance et que clairement, c'est un groupe de Oi néo-nazis anticommunistes. Alors, je laisse un peu ces histoires de croix gammées pour vous parler un peu de l'Irlande et des troubles donc de l'Irlande du Nord. Sur les troubles IRA, les troubles d'occupation en Irlande du Nord, donc, l'histoire en train de se faire, une histoire chaude, ou qui n'en finit pas de finir, donc l'histoire du rêve impérial britannique. Il y a un morceau comme Last Night Another Soldier de 80, des Anglais du nord-est de l'Angleterre, Angelic Upstarts, qui sont socialistes, on parle à l'époque de socialist punk, antifascistes, anti-abus policiers, donc des morceaux comme Police Oppression sur la répression de la grève des mineurs en 84, The Murder of Little Towers sur un meurtre policier. Et là, dans ce morceau, donc Last Night Another Soldier, ça parle d'un jeune Anglais qui s'est engagé dans l'armée, faute d'opportunités professionnelles, qui se retrouve en terre étrangère, haï par un enfant qui est, lui, occupé, qui souffre lui aussi. Donc le groupe renvoie dos à dos les souffrances du soldat qui soutient les colons, du soldat occupant, et de l'enfant dont la terre est occupée. Mais en même temps, et comme beaucoup, même quand ils sont internationalistes, comme on est supposé l'être quand on est socialiste, il y a toujours un vague nationalisme, comme dans England, donc un morceau du même groupe, sur lequel je passerai sur les paroles. The red is the flag, the red in the flag is the blood that was spilled in the way that our forefathers tell. Donc là, on a des paroles clairement nationalistes qu'on va retrouver chez, par exemple, les Pogues, mais d'une façon infiniment plus poétique, quand même bien différente, quoi. Et puis, on n'est pas du même côté de la barrière, en l'occurrence. Une autre chanson des Upstarts, c'est Brighton Bomb. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet événement qui a touché de près, mais pas assez pour certains, Margaret Thatcher. En fait, Brighton Bomb, ça fait référence à l'attentat manqué contre Margaret Thatcher dans un hôtel de Brighton qui a fait 5 morts et 34 blessés. Elle est passée à côté. Donc le morceau, moi j'ai pas réussi à le comprendre, je sais pas ce que vous en pensez vous, si vous le connaissez. J'arrive pas à savoir s'il est critique, puisqu'il dit « Who gives you the right ?» Je sais pas, j'imagine qu'il s'adresse à l'IRA. Ou si leur anti-thatchérisme l'emporte sur la condamnation de la violence, puisque, comme vous le voyez ici, l'image est peut-être pas très grande ici. Elle est pas tout à fait mise en valeur, quoi. On sent qu'il ne porte pas une grande affection. Mais les paroles de la chanson me permettent pas tout à fait de saisir s'ils ont soutenu l'attentat ou pas. En tout cas, ils reprennent, sans qu'on sache vraiment s'ils se les approprient, les paroles de Bobby Sands, qui est donc un militant anti-impérialiste qui est prisonné à Maze, dans le nord de l'Irlande, en Irlande du Nord, qu'on appelle aussi Lancash, et qui va mourir de sa grève de la faim, que Thatcher n'arrête pas, elle ne veut pas céder, elle le laisse mourir comme un délinquant, dit-elle. Donc il mérite la mort, et il faut savoir qu'il avait été élu quand même député à la Chambre des communes quelques jours avant. Et donc il disait « Our revenge will be the laughter of our children », donc notre revanche, ce sera le rire de nos enfants. Donc le morceau le cite, donc voilà. peut-être que l'approche est plus complexe, je n'ai pas réussi à saisir tout à fait leur positionnement. Et toujours donc à propos de cet empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, les Cockney Rejects, qui sont de Londres, comme le nom l'indique, disent dans Power and the Glory leur amertume face à l'enrôlement des soldats envoyés restaurer la gloire de l'empire, donc un morceau assez classique anti-establishment, qui cependant ne critique l'empire que parce que ce sont des Anglais de la classe ouvrière qui sont envoyés défendre hors des frontières nationales la patrie au profit des classes possédantes. Donc il n'y a pas dans ce morceau, en tout cas, vraiment une prise de parole claire sur ce qu'est le colonialisme et l'empire anglais, finissant à l'époque. Voilà, c'est l'époque des Malouines, donc c'est une période très particulière. En France, on a un exemple bien connu, c'est celui de Parabellum, déjà tout un programme dans le nom, hein, qui se fait l'écho de cette Première Guerre mondiale, dans un morceau qui s'appelle Papa, très émouvant, sur le lien invisible qui peut exister entre un fils, ou plutôt un petit-fils, et la génération, donc un enfant des années 80, un jeune des années 80, et son grand-père, martyr de la guerre des généraux. Et puis un autre morceau sur la guerre, cette fois sur la guerre froide, La bombe et moi, où Schulz fantasme envoyer une bombe atomique sur l'Amérique. Et dans un autre genre, on a Oi Polloi, donc un groupe, donc, comme je disais, de Oi socialistes écossais, qui chantent virilement Americans Out, et soutenu par la volonté populaire. Il y a toujours quelque chose de cet ordre-là qui est moins clair en Angleterre qu'en France, dans les exemples que j'ai pris. Alors, côté irlandais, moi, je vais renvoyer à l'intervention de Tim Heron, hein, qui est mieux qualifié pour en parler, et qui en parle d'ailleurs très bien. Juste dire que les Stiff Little Fingers, qui sont de Belfast, sont du côté de l'humour, avec un morceau Barbed Wire Love, dans l'album Inflammable Material, que je dois avoir là, voilà. Donc les paroles, ça c'est un pochoir, hein, c'est pas l'album. Les paroles, I met you in no man's land, across the wire, we were holding hands, hearts in a bubble, in the rubble, it was love at bomb sight. Et plus loin, il fait référence aux pratiques de l'IRA, donc, qui est désormais dévoyée, qui fricote avec clairement des milieux d'argent et de trafic. Blasted by your booby traps, I felt the blow in both kneecaps. Donc il fait référence au fait que l'IRA tirait dans le genou, tirait une balle, hein, pour blesser à vie en fait, des gens qui auraient trop parlé ou qui étaient là au mauvais moment ou qui n'auraient pas payé, enfin pour tout un tas de raisons pas toujours justifiées, et l'acte en lui-même ne l'étant pas justifiable. Et pour un autre groupe, et après je referme le côté irlandais que je laisse donc à Tim, les Undertones, qui sont de Derry, eux, comme le disait Tim précédemment, une intervention où j'étais présente il y a quelques années, ils disaient que en fait, les groupes irlandais de punk essayent de rester en dehors de ces histoires. Et pour les Undertones, c'est pareil, rien dans leurs morceaux ne fait référence en fait, à la situation d'Irlande du Nord, aux troubles. Ils sont désireux de vivre leur jeunesse malgré tout. Ils semblent s'être concentrés donc, sur la production de cette pop punk hyper efficace, avec des morceaux qu'on connaît tous, Teenage Kicks ou My Perfect Cousin, hein, qui tout le monde a ce cousin énervant. Je pense que tout le monde s'est reconnu dans ce morceau. Et de manière générale, tous ces groupes tournent le dos aux factions et tentent de dépasser la fracture communautaire catholique-protestant en organisant des concerts malgré tout, malgré les couloirs dans lesquels il faut passer, et malgré les barbelés qui séparent les uns et les autres. Donc ça peut être vu, ce côté hors faction, ça peut être vu comme un geste politique en soi, bien évidemment. Du côté allemand, pour finir, enfin, où j'ai connu le punk également, parallèlement à l'Angleterre, au même âge, et puis un peu plus âgé à Berlin, en 91, juste après l'ouverture, enfin 2 ans après l'ouverture du mur, et l'éviction de 90 des squats de la Mainzerstrasse. Donc il y avait 13 squats quand même dans cette rue. Et donc tout le monde, quand je suis arrivée, s'était reporté sur d'autres rues, parmi lesquelles celle où j'étais. Donc un petit appartement de l'Est qui n'était pas chauffé, mais qui avait l'avantage d'être gratuit. En fait, comme les Allemands de l'Est étaient tous partis à l'Ouest, il y avait des appartements, il suffisait de pousser la porte et d'entrer. Donc tous les asociaux de Berlin, ce sont de l'Ouest, ont profité de cette ouverture même si pour eux ça a été dramatique. Donc ce quartier de Friedrichshain-Kreuzberg, quartier utopique, hein, ça a été un peu la fin du monde aussi pour ceux qui l'habitaient, pour Kit Siller, qui est une jeune Française qui habite l'époque, qui a écrit en 90 un livre qui s'appelle Berlin dernière. Elle écrit « Devant ces ruines, tout le possible ». Ça, c'est avant le mur. Hein. Un grand chaos, terrible et merveilleux. La fin du monde, adulte. Le début d'autre chose, ailleurs, dans un autre univers. Évidemment, cette parenthèse enchantée, pour eux, ne dure pas longtemps, puisque le mur ouvert, leur situation exceptionnelle d'île au milieu de la RDA se termine. Et avec eux, toute une phase du punk allemand. Là, je ne parle que de Berlin, je ne parle pas du reste de l'Allemagne. De manière générale, donc dans le punk allemand, on a des paroles qui vont refléter les conflits fréquents avec la police, même si leur police est réputée beaucoup plus dans le dialogue que nous. Il y a quand même énormément de conflits, surtout à l'époque, mais aussi avec la génération des parents et des grands-parents qui ont connu la guerre et qui n'a pas brillé par l'expression de son repentir ou tout simplement qui n'a pas pris la parole sur ces sujets avec la jeune génération qui est horrifiée en fait, du fardeau qu'elle découvre et qu'elle se sent devoir porter. Donc il y a aussi le contexte de guerre froide, hein, évidemment, et la partition de l'Allemagne qui joue aussi énormément, et aussi le passage par une période de violence armée, l'automne allemand de 77, donc on est en pleine vague punk, qui fait écho à l'Italie de la même époque avec les brigades rouges et aux autonomes français. Donc ils sont anti-impérialistes, anticapitalistes, critiques de la dénazification incomplète de l'Allemagne. On compte, je ne sais pas pourquoi je garde le masque d'ailleurs, on compte une grande partie de sympathisants 10 ans après la fin de la guerre, donc c'est une dénazification tout à fait ratée. Donc la guerre n'est pas finie pour eux. Les sympathies du mouvement punk vont aux autonomes, d'une part, et puis aux terroristes de Bader, d'autre part. À l'époque où moi je les ai lus, donc bien cachés dans la bibliothèque parentale, les lettres de prison de Gudrun Enslin avait exercé sûrement une certaine séduction, au même titre que le romantisme suicidaire de Werther. Et j'ai vu qu'il y a un groupe punk qui s'appelle Bader Meinhof, donc le côté, l'attraction un peu morbide de fonctionne toujours auprès des jeunes, apparemment. Mais il n'y a pas que l'attraction morbide, je pense qu'il y a un romantisme européen qui n'est pas tout à fait mort, ni même le fantasme européen qu'on va retrouver dans une chanson des Stranglers, « European Female ». The European, she's here, will be together for 1,000 years. Donc on ne sait pas si 1,000 years, c'est le millénium de Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, ou si c'est le Reich de 1000 ans, ça va très clair. And do you really think that we might fall? I saw her in the Straße and in the rue as well. Donc, toute l'ambiguïté d'un texte, évidemment, artistique, hein, qui est pas un manifeste, qui est là pour être entendu de plein de façons. En France, c'est plus clair, le punk va épouser des situations sociales en parlant de chômage, de petits boulots merdiques, d'horizons bouchés, de la montée de l'extrême droite. Et puis, donc, on a des groupes, ils sont à peu près tous exprimés sur la question. On a les rats avec le borgne, enfants à problème, je m'emmerde, on a les cadavres avec nos passaranes, on a OTH. Caméra Silence, Berrurier Noir, La Souris Déglinguée, tout un tas de groupes qui en fait mériteraient une étude à part, tant la question de l'histoire est présente, de l'histoire et du colonialisme est présente dans leur... ça c'est la Mainsterstrasse. Dilapide ta jeunesse, c'est une référence à un livre qui est récemment paru, qui est un peu l'équivalent de Please Kill Me américain. Une sorte de livre de témoignages de la scène de toute la période. Et donc, oui, je disais, les groupes français, je ne peux pas balayer ça rapidement parce que j'ai déjà dépassé mon temps, je pense, mais la question de l'histoire et de l'histoire de l'Europe et du colonialisme, elle est très, très présente. La rigueur, c'est à peine 2 ans après donc, l'arrivée de Mitterrand, de la gauche au pouvoir, et même les branchés qui s'étaient saisis à leur façon de ce lent naufrage avec leur fête interminable, dont Alain Pacadis décrit l'enchevêtrement des périodes esthétiques de cette façon. Il disait les after thermidoriens croisaient les post-junkies, tandis que les nouveaux modernes se mêlaient aux new ecclésiastiques et aux after chics. eh bien, arrive un moment, le moment fatidique, La fin des branchées, qui est le titre d'une BD de Jean Rouzeau, qui faisait partie de Bazooka, une BD de 83, qui annonçait déjà, par son titre et par la vacuité de ses personnages stéréotypés, mais croqués d'après le réel dans ces soirées branchées, auxquelles peu de punks avaient accès, pour dire la chose, qui parodiait le punk pour la haute société parisienne, mais dans lesquelles il y avait quand même une possibilité d'interstice dans laquelle certains sont entrés pour peu de temps, qui annonçait déjà cette fin débranchée, la mort du dandy. Mais la mort du dandy, ben, c'est pas la mort de l'histoire, et il en restait quand même tout un pan à écrire. C'est ce que le Pin défend, le punk is not dead, c'est la fin d'une tranche historique, mais c'est l'ouverture d'une autre, avec plein de nouveaux courants, l'arrivée des femmes, de questionnements beaucoup plus politiques, enfin plus clairs, moins flous, très clairement. Voilà, moi j'ai terminé.
Merci Natacha, merci pour cette communication qui a brassé beaucoup de thèmes sur le punk européen. Alors je pense qu'il y aura des questions, on peut prendre une bonne dizaine de minutes, Manuel, et puis après on ira à Philippe.
Merci Natacha, trop bien. Je partage ton hypothèse du coup, et je trouve qu'à mon avis cette hypothèse est transposable pour la génération actuelle, effectivement, avec le climat que tu as dit, effectivement. Je me permets, alors là c'est plus une discussion du coup, hein, avec toi, je me permets même de compléter aussi peut-être par une configuration particulière du néolibéralisme aussi, avec l'injonction à devenir soi, avec les goûts, les récits de soi, etc. Donc comment on fait, surtout quand on aime une musique que tout le monde déteste, qui on est du coup, la question de la légitimité à être soi, à travers ses goûts, etc. Et puis développer sa propre activité DIY alors que personne n'aime ce qu'on fait. Enfin, y a tout ce truc-là aussi, et je pense que ce serait hyper fécond de questionner ton hypothèse sur la génération actuelle en pointant du doigt aussi une crispation aussi morale. Certes, c'est plus clair, mais il y a quand même une crispation morale qui est notamment la gauche identitaire, appelée gauche identitaire, voilà, donc du coup, là, qui émerge apparemment. Là, on a un doctorant au CEDES qui travaille là-dessus, donc assez compliqué ces questions-là, mais sur la, et on le voit, la scène punk actuelle, notamment à travers l'article qui a été écrit de Mediapart, je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, qui relate les agressions sexuelles de personnes, des femmes dans la scène, quoi. Entre autres, dans la scène, pas que. Il y a aussi la scène métal, etc.
La scène punk ?
Scène punk, ouais, Rage Tour, Guérilla Poubelle, tout ça, Guérilla Assaut, enfin, tout le truc, quoi. Ouais. Et ça a créé une scission, mais très très forte, et c'est, je dirais que les enjeux de pouvoir au sein de la scène, hein, pour vraiment parler en termes bourdieusiens, se cristallise autour de valeurs entre des anciens un peu marxistes convaincus matérialistes et une génération de gauche identitaire sur la question du genre, etc. Et je pense que là, il y a un truc à creuser sur ce que tu dis avec la question réelle, je pense, de l'identité, hein, l'injonction à être soi à travers ces trucs-là. Donc j'ai été hyper intéressé par ce que tu as dit, donc voilà. Enfin, pour plus tard même.
Oui, voilà. Moi, c'est vraiment. J'ai l'impression d'enfoncer un peu des portes ouvertes, puisque je voulais quand même le dire. C'est pour ça que j'ai profité de la journée Global Punk, puisque j'ai toujours voulu aborder cette question de l'histoire. Mais là, c'est vraiment un grand trait. C'est un peu la question pour débutants, quoi. C'est vrai que on peut aller vraiment plus loin. Et si on la tire, donc bon, moi, c'est avant 89, puisque c'est ma période, le moment où je le découvre. Et puis, c'est une période historique un petit peu charnière. Et effectivement, ce que tu dis, aujourd'hui, la question sociale, la question politique, elle a vraiment explosé. Et la lecture matérialiste, même féministe, elle prend un... Même les matérialistes féministes, elles se rapprochent aussi des identitaires. Donc, il y a... Le côté libertaire, il est parti avec la fête débranchée, hein, clairement, mais il est parti pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on avait eu un peu ces sensations à certains colloques, je me rappelle à Bordeaux notamment, où c'était des opinions très, très tranchées. On nous reprochait, par exemple, d'être des drogués, alors bon, venant de la part de Tuffer, c'était assez rigolo. Mais oui, on sentait qu'il y avait de la part de la jeune génération l'expression vraiment. Alors ils le pensent réellement, quoi. C'est pas pour emmerder le monde, mais vraiment des questions qui sont posées complètement différemment, et on a l'impression de pas s'entendre, quoi, de pas se comprendre même. Et c'est vrai que de voir cette évolution et de comprendre les moments historiques qui ont amené de l'intérieur et aussi de l'extérieur, donc ces grands courants idéologiques qui arrivent dans l'universitaire par le biais de la militance, etc. Et de voir aussi comment concrètement, avec une ethnographie un peu fine, des lieux de concert. Maintenant, les concerts, on n'a plus le droit de bousculer. Il y a des choses qui sont importantes qui ont été amenées justement par ce que j'annonçais, donc les filles des années 90, les courants américains, et puis tout ce qui est du côté de crasse, plus vertueux, etc. Alors que les punks, c'était un peu rien à foutre, se posaient pas beaucoup de questions, même si bon, c'était de la provocation, le pronucléaire, mais ils en lassaient pas des arbres non plus, quoi. C'était vraiment un truc très urbain, très individualiste, malgré les groupes de copains et de copines, mais il n'y avait pas ces thématiques encore. Et comme tu dis, moi, c'est vraiment le niveau zéro du truc. On peut amener ça à une réflexion beaucoup plus poussée. Voilà, exactement. Et la musique, puis les lieux, c'est les lieux où elle s'exprime, quoi, avec quelque chose de plus dans l'affrontement, quoi.
Monsieur Philippe Morgan.
Je ne sais pas si mon intervention est très importante, mais je voulais apporter quelques précisions. J'ai beaucoup aimé, évidemment, votre travail. Vous avez fait un travail remarquable. Par contre, vous vous situez bien, bien, bien trop tard. Et d'abord, ce qu'il faudrait qu'on précise, c'est que tout ça, évidemment, est parti des États-Unis, comme toujours, on aime ou on n'aime pas. Et il y a deux règles qu'il faut souligner. C'est qu'aux États-Unis, c'est liberté d'expression first. Donc vous pouvez raconter, montrer, dire ce que vous voulez. Et même si ça ne vous plaît pas, même si c'est outrageant. Et ensuite, le problème, évidemment, du devoir de mémoire, qui n'existe plus en Amérique. Quand vous parlez par exemple, du terme punk, nous avons essayé hier avec Sou de le situer, bien avant le terme New Wave, contrairement à ce que vous avez souligné, on ne savait pas qu'on faisait du punk, et c'est vraiment pratique. Enfin, Sou et moi, on essaye, c'est un peu la théorie de Sou, qui pense que le terme punk est sorti d'Angleterre à partir du moment où les Sex Pistols sont sortis. Sex Pistols, c'est 76, après. 76. Nous, on a démarré en 63, 64. D'après une copine, Bibi Hansen, avec laquelle j'ai un différent, qui, elle, situe le punk à partir du moment, comme elle faisait partie de la Factory de War, elle situe le punk à partir de ce moment-là, donc en 64. Moi, je situe avec Sou le départ du punk, évidemment, avec les Stooges, de 69, avec bon, toute la scène de Detroit. Bon, ça, c'est un détail qu'il faut effectivement préciser. Le New Wave est venu parce que finalement, les majors, les grosses compagnies américaines, se sont rendues compte. Parce que quand on a fait, moi par exemple, quand j'ai sorti en 77, donc à Girl Right, des Stooges, qui était un outtake d'Europower, il y avait le punk britannique avait été arrivé à Los Angeles. N'oubliez pas d'internet, pas de smartphone, pas rien du tout, pas de communication en fait. Et donc, c'était une réaction contre l'establishment, contre le fric, contre ceci. Et il y a eu un truc très important, un très très bon copain qui est décédé évidemment, qui s'appelait Brennan, qui était un petit Écossais très marrant, qui se baladait en kilt dans les rues de Los Angeles, et qui avait sorti le masque. Le masque, c'était une espèce de squat où il y avait tous les groupes qui venaient, dont mon groupe, les Controllers, qui ont démarré là-bas, etc. Et c'est ensuite, donc on faisait ça, mais personne ne faisait de fric. Moi, j'avais fait à l'époque une interview avec le LA Weekly, j'avais sorti ce qui peut paraître une connerie en disant, bon, nous, on fait moi, je fais un label socialiste. Bon, socialiste aux États-Unis, c'est comme s'ils étaient communistes, donc déjà. Et donc, ce qui fait que l'état d'esprit, c'était on s'en fout du pognon, c'est 50-50, on fait le boulot ensemble, on se démerde, on va sortir, on va faire des trucs. Et je vous recommande d'écouter les contrôleurs parce que c'est out of sight, c'est vraiment typique, actuel, c'est tellement d'actualité 40 ans plus tard que c'en est fantastique. Et donc, les maisons de disques se rendent compte qu'effectivement, il y avait du fric à prendre, mais comme le terme punk était vraiment derogatory, on dit en américain, ils ont dit non, on ne peut pas. Et donc, ils ont sorti le truc New Wave, parce que ça faisait beaucoup plus acceptable. Donc voilà, c'est ce que je voulais proposer. Ensuite, les histoires de nazis, etc. Après l'enregistrement, l'apparition de Raw Power en 73, qui a fait un flop pas possible, le dernier concert que les Stooges ont fait au Whisky, vous avez des photos, malheureusement je n'y étais pas, Ron Ashton porte une veste SS avec un brassard nazi. Donc c'était déjà en 73. Bon, et donc après ça a été repris évidemment par tout le monde. Donc il y a cette précision à porter. Et d'autre part, dans votre liste, comme ça, il faut aussi citer Lemmy de Motorhead, qui est un fou furieux de tous les artefacts de cette époque, qui a été complètement... qui a envoyé balader tout le monde en disant « je fais ce que je veux, ça m'intéresse ». Mais il était un fou furieux, collectionneur phénoménal. Et ensuite, bon, la fin de votre intervention, c'est vous avez oublié Kiki Picasso. Ouais. Voilà.
Ron Ashton, tout à fait, je ne l'ai pas noté, vous avez raison de dire qu'il est antérieur. Il y a aussi le chanteur de Led Zepp qui a essayé de se mettre à la mode, mais ça n'a pas pris. Simplement, sur les questions d'étiquette, ce dont je parlais, c'est de et je ne l'ai pas suffisamment précisé, c'était l'emploi dans les médias du terme New Wave, c'est-à-dire que le premier terme qui est apparu pour ce qui est de l'Angleterre, New Wave, pour ensuite être punk, c'était juste simplement pour différencier ce qu'on appelait la New Wave maintenant, ce qu'on appelle la New Wave, c'est-à-dire en effet un mouvement que les maisons de disques se sont dit super, le punk, ça fait de l'argent, mais ils sont pas cadrés, on va essayer de faire autre chose avec cette post-punk qui nous intéresse, avec une flopée de groupes et le mouvement néo-romantique en France et le mouvement dont j'oublie le nom là tout de suite en Angleterre, tout un truc, un courant axé sur les vêtements. Mais non, c'était pas pour. Évidemment, le terme punk, il est même bien antérieur. Et en soi, il est très ancien. Et pour ce qui est des États-Unis, en effet, il y a cette période de 64, ce moment de 64 qui précède. Moi, j'ai voulu situer au niveau européen, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, sur la question des étiquettes. Je voulais en parler, mais je l'ai enlevé pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Mais Vivienne Dick, qui présentait les films au Jeu de Paume pendant 10 jours il n'y a pas longtemps, elle disait, donc, puisqu'elle a fait des films sur la No Wave, et j'ai rencontré donc Rachel Garfield, qui a écrit un bouquin dont je voudrais vous parler au PIND. Elle disait, Vivienne Dick, ces histoires d'étiquettes, nous les artistes, c'est bon pour les historiens, nous les artistes, on est dans la création et on s'en fout. Et dans l'un des films qu'elle montrait, il y a Lydia Lunch, puisqu'elle a beaucoup tourné avec elle, avec Klaus Nomi tout jeune aussi, Lydia Lunch qui est quasiment adolescente et qui se plaint en fait du fait qu'on laisse les enfants du Lower East Side jouer avec des détritus, quoi, qu'il n'y a pas d'endroit pour eux. Et qu'être un enfant à l'époque dans ce lieu, c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. Et donc voilà, pour revenir à cette question d'étiquette, pour les nazis, ouais, je pense que vous avez fait le tour. Ça précède hein, fatalement. Voilà. Après, c'est juste qu'il y a eu cette petite mode. Mais le punk emprunte beaucoup au rock américain, bien évidemment, quoi. À ce rock dur.
une dernière petite précision aussi. Justement, en 1974, quand j'ai fait les fameuses photos d'Iggy que vous avez vues à la piscine là-haut, qui était un truc de dingue parce qu'il shootait l'héroïne, donc c'était hyper dur de le faire sortir de sa chambre. Et donc le groupe s'était scindé en deux. Et c'était marrant parce qu'ils étaient dans, dans le même building, mais à droite vous aviez Iggy et James Williamson, et de l'autre côté vous aviez donc Ron Ashton et Dennis Thompson, qui avaient pris la place de Scott, son frère, qui était retourné lui à Detroit. Et ils avaient fait un groupe The New Order, à ne pas confondre avec New Order, parce que alors là c'est complètement opposé. Et donc ils m'avaient donné la cassette, et en me disant, tiens Philippe, fais quelque chose avec. Et j'avais donc sorti cet album The New Order, que j'ai réédité dans le label, etc. Et la photo derrière, qui m'avait totalement sidéré, c'est une photo dans leur appartement où ils avaient des grands drapeaux nazis qui étaient au mur. Moi, quand je suis arrivé, je dis, c'est pas possible, je peux pas faire cette photo là. Ils étaient là, et comme ils étaient tellement naïfs, en fait, ils étaient, ah, fais une photo. Alors ils s'étaient tous mis, vous pouvez voir si vous regardez là, cette photo là, ils s'étaient tous mis par terre, ils avaient mis une centaine de bouteilles de bière vides sur eux, etc. Et vous voyez le grand drapeau. Quand j'ai fait la réédition sur le CD, avec le graphiste, on a essayé comme des malades d'enlever cette croix gammée. Impossible. Je ne sais pas comment ça se fait. Elle n'arrêtait pas de ressortir. On l'a regardée, on croyait qu'elle était enlevée. Et puis après, au printing, à l'imprimerie, tac, elle ressortait. Je devenais fou. Je dis quand même.
Bon, c'est symbolique. Voilà. C'est que ça remonte toujours. Ça ne cesse pas de revenir.
C'est tout. Voilà.
On y est un peu en ce moment. Merci à vous.
Merci.
Il fallait préciser tout ça, je suis d'accord.
Merci, je crois qu'on peut applaudir Natacha. Et merci pour les interventions aussi.